J'aimerais commencer ce matin avec un texte dans l'épître de Jean, 1 Jean 3 et verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Il y a 2 semaines de ça, j'ai abordé le sujet en prenant un texte qui avait été écrit par Marion Muller-Collard, qui était « Prendre sa place, toute sa place et rien que sa place ». Et ce qu'on va voir aujourd'hui continue aussi avec ça, parce que je pense que l'une des choses qui fait que nous n'arrivons pas à prendre notre place, toute notre place et rien que notre place, c'est le fait que nous comprenons mal ou nous vivons mal cette réalité, nous sommes enfants de Dieu. J'aimerais vous lire un petit texte du livre dont je vous parle souvent, « Vivre une vie priante ». Oui, Geneviève, je ne l'ai pas oublié cette fois, Marc va te le ramener, il est là. Et dans lequel il dit ceci, « Appelez Dieu, Abba, Père, c'est un cri du cœur, une prière qui surgit de notre être le plus intime. Il ne s'agit pas du tout de donner un nom à Dieu, il s'agit de revendiquer Dieu comme la source de ce que nous sommes. Cette revendication n'est pas le fait d'une intuition subite ou d'une conviction acquise, c'est la revendication formulée par l'Esprit de Jésus en communion avec notre esprit. C'est la revendication de l'amour. » Je vais développer un petit peu ça et l'expliquer. Mais pour ça, je veux lire un deuxième texte dans Romains 8, 14. Il est dit « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Récemment, les derniers mercredis, on a eu des discussions chez Luigi et Caroline au sujet de « qu'est-ce qu'un chrétien ?» Et souvent, malheureusement, on revenait sur qu'est-ce qu'un chrétien fait ou ne fait pas, alors que la question c'était qu'est-ce qu'il est. On a un élément de plus de réponse là essentiel, un chrétien c'est avant tout un enfant de Dieu. Et comment on sait qu'on est enfant de Dieu? Justement ici ce texte nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est plus fort qu'une conviction. Quand on apprend quelque chose, voilà, je vais à l'école, j'apprends quelque chose, je vérifie que c'est vrai, même les professeurs peuvent se tromper, hein, on doit toujours tout vérifier, mais une fois que je sais que cette chose, enfin, il me semble qu'elle est vraie, j'en suis convaincu. Et déjà, c'est assez fort. Mais la conviction dont il est parlé là, elle est encore plus forte. Parce que c'est directement, sans intermédiaire, que l'Esprit de Dieu, celui qui est là pour glorifier le Fils et pour nous révéler le Père, à l'intérieur de nous, se connecte directement avec notre esprit et dépose en nous cette conviction que nous sommes ses enfants. C'est quelque chose qui dépasse ce qu'on peut raisonner ou expliquer, mais c'est ce qui fait, je pense, que les premiers chrétiens, mais aussi encore aujourd'hui dans beaucoup de pays, des gens soient prêts à mourir, à tout perdre, à tout laisser, parce que il n'y avait pas de place pour est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. Cette conviction très forte dans le cœur qui est là et qui fait que on n'a pas le choix, entre guillemets, hein, on avait le choix d'accepter Christ, mais on n'a pas le choix de dire oh ben c'est plus vrai, non mais je le crois pas. C'est là et c'est un témoignage intérieur qui est très très fort. Et c'est le point de départ de la vie chrétienne. Lorsque Nicodème vient voir Jésus et qui lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire ou comment on peut faire ou c'est quoi ton message? Il lui dit, il vous faut naître de nouveau. Alors c'est vrai que souvent on dit que les êtres humains sont les enfants de Dieu. D'une certaine façon, c'est vrai aussi, hein, à un certain niveau. Nous sommes tous issus de la création que Dieu a lancée au départ et puis qui fonctionne, j'allais dire, toute seule. Non, il la soutient, mais qui fonctionne comme ça. Hein. Mais on doit devenir enfant et fils de Dieu parce qu'on l'accepte, parce qu'on le décide, parce qu'on le veut. Hein. Et lorsque c'est fait, ce témoignage intérieur est le point de départ de notre vie chrétienne et c'est là-dessus que tout doit se greffer. Je vais y revenir après, mais je voudrais lire encore un autre petit texte du même livre. Spirituellement, nous sommes en Dieu, hein, en comme à l'intérieur, dans le Seigneur, chez nous en Dieu. Notre véritable identité, c'est d'être enfant de Dieu. C'est de ce point de vue, le point de vue de Dieu, que nous sommes appelés à voir le monde comme Dieu le voit. C'est le sens de la théologie. Nous sommes toujours en train de diagnostiquer le caractère illusoire de tout ce qui est étranger à ce point de vue. Cette réalité du fait que nous sommes devenus enfants de Dieu et ce témoignage intérieur de l'esprit, c'est ce qui, ça va être la pierre de touche pour toute notre vie de croyant. C'est ce qui fait qu'on va comprendre les choses spirituellement et c'est comme ça qu'on va trouver notre place. Dans Galates 4:4, il y a encore ce texte qui parle de ça. Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ce qui était sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Lorsqu'on devient un enfant de Dieu, c'est en fait, on hérite du lien qui existe entre le Fils et le Père dans le mystère de la Trinité. C'est une chose incroyable, parce que c'est pas quelque chose à fabriquer, on en hérite. L'Esprit de Dieu en nous, qui atteste que nous sommes enfants de Dieu, c'est lui qui pousse ce cri du cœur vers le Père en disant « mon Père ». Et ça explique, on comprend mieux pourquoi Jésus dit à ses disciples lorsqu'il était sur terre, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille ». Je ne sais pas pour moi, vous, mais pour moi, quand j'étais plus jeune, il y a assez longtemps maintenant, et que je lisais ce texte, je disais, ouais, Jésus dit ça, mais non, moi j'aurais préféré qu'il reste si j'avais été à son époque. Hein. Pouvoir le voir, parler avec lui, manger avec lui, discuter avec lui, etc. Et Jésus dit, non, il est avantageux que je parte, parce que si je pars, vous allez recevoir l'Esprit Saint, le Consolateur, l'Esprit de vérité, et lui, il sera en vous. Et c'est en ça que le christianisme authentique, hein, pas parce qu'il a pu devenir ou ses formes religieuses ou l'idéologie chrétienne, mais le christianisme authentique a cette caractéristique-là qui, à mon avis, est unique. C'est que c'est pas juste quelque chose auquel j'adhère, c'est pas des pensées que je choisis, c'est pas, hein, c'est vraiment cette possibilité de vivre de par l'intérieur une connexion avec Dieu par ce lien qui existe déjà, qui existe de toute éternité dans la Trinité entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et c'est comme on est inclus dans cette relation-là et on vit en tant que fils. Et c'est pour ça que il est dit dans le premier texte qu'on a lu, dans Romains, hein, Romains 8, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. C'est pas que quand on n'est pas conduit par l'Esprit, on l'est plus, hein, mais c'est qu'on le vit pas. J'aimerais, pour illustrer tout ça, parce que je suis conscient que ça peut être assez théorique, on peut avoir du mal à le connecter à notre expérience, prendre une histoire très connue racontée par Jésus lui-même, celle qu'on appelle l'histoire du fils prodigue ou l'histoire du fils aîné, peu importe. Dans Luc 15, hein, je ne vais pas vous la lire en entier, vous connaissez l'essentiel, mais vous pouvez la rechercher chez vous. Un homme avait deux fils. Et puis, sur ses deux fils, le plus jeune dit, donne-moi ma part d'héritage, j'ai envie d'aller faire ma vie. Je veux, on pourrait dire, si on le rapportait autrement, hein, j'ai envie de trouver ma place, je me sens pas à ma place dans cette maison. Donne-moi ce qui me revient, même si rien lui revient, son père est encore vivant, mais enfin... donne-moi quelque chose pour que j'aille trouver ma place dans ce monde. Et puis il part. Il va à l'aventure, il essaie plein de choses, il fait la fête, il dilapide ses biens, il se retrouve à garder les cochons, ce qui, nous, on a du mal à réaliser, hein, mais pour un juif, garder les cochons, c'est la déchéance de la déchéance, c'est un truc inimaginable, quoi. Hein. C'est pas juste qu'il est devenu pauvre, hein. C'est l'infamie totale. Et en plus, il meurt de faim parce qu'il peut même pas récupérer ce que mangent les cochons, il partage pas. Et là, tout d'un coup, il se dit, ah, les esclaves dans la maison de mon père sont mieux traités que moi, je vais rentrer et je dirai à mon père, écoute, je suis plus ton fils, d'accord, j'ai tout raté, j'ai tout gâché, j'ai tout cassé, mais je veux bien être ton serviteur, parce que ton serviteur est mieux traité que ce que moi, enfin, une meilleure vie que celle que j'ai moi aujourd'hui. Et donc il revient et on connaît l'histoire, le père l'accueille et puis lui le rétablit dans son statut de fils. Hein. Non, tu es toujours mon fils, tu l'as toujours été mais tu le savais pas. Hein. Et puis il y a la réaction de l'autre fils qui rentre de travailler lui, hein, après une bonne journée dans les champs, vous savez dans quel état on est quand on a passé la journée dans les champs, hein. C'était pas la journée de, il n'était pas aux 35 heures à cette époque-là. Il arrive le dos cassé, fatigué, transpirant, sûrement pas très propre, etc. Puis là, il y a la fête à la maison, il y a du bruit, il y a des musiciens, il y a tout ça. Il est tellement surpris qu'il veut même pas rentrer dans la maison. Hein. Il appelle un serviteur. Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu sais pas, ah, c'est la fête, ton frère, il est revenu et puis ton père a tué le veau gras, etc., etc. Les musiciens ont fait la fête. Et là, lui, il explose. Et il veut pas rentrer dans la maison. Et le père vient vers lui. Je sais pas si vous voyez, parce qu'on parle toujours du fils prodigue, hein, du jeune fils, mais le parallèle qu'il y a, c'est que le père qui est sorti vers le fils plus jeune qui est revenu, sort aussi vers son deuxième fils. Hein. Il va le voir. Puis il dit, mais c'est quoi le problème? Pourquoi tu veux pas venir? Et là, le fils aîné peut enfin parler à son père, peut-être pour la première fois de sa vie, et lui expliquer comment il vit le fait d'être fils. Hein. Les deux sont fils, dans la réalité. Ils sont fils, c'est, voilà, ils sont issus du sein du père. Mais en fait, aucun des deux ne vit comme un fils. Le premier pensait, si je pouvais partir, je pourrais me réaliser, faire ce que j'ai à faire, être libre. Et le deuxième, qui n'est pas parti, c'est encore pire, ou c'est pas mieux en tout cas. Hein. Il est fils, mais il vit comme un esclave. Et puis, il vit dans l'amertume. Et là, il y a tout qui sort dans cette discussion. Il dit à son père, tu vois, depuis ces années que je travaille pour toi, et jamais à moi tu m'as donné de quoi faire la fête avec mes amis, et je travaille dur et j'ai rien, et on peut entendre derrière, je dois attendre que tu crèves pour enfin pouvoir faire ce que je veux et faire la fête, quoi. Hein. Et le père lui dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Cette maison, c'est ta maison, c'est notre maison, c'est à toi, comme c'est à ton frère, comme c'est la famille. Hein. Et ces deux fils, en fait, aucun a compris. Et je ne sais même pas, le fils plus jeune qui est rentré, alors bien sûr, il a été surpris, mais il était content, mon père m'accueille, etc. Mais est-ce qu'il a réalisé ce que ça voulait dire d'être un fils après? Je sais pas. Voilà, c'était la fête, il est rentré. C'était pas le but de la parabole. Ça m'a donné l'idée d'un livre à écrire. La même maison 10 ans plus tard. Que sont devenus les deux fils? Hein, après cette expérience-là. Je sais pas, il faut y réfléchir. Mais ça serait intéressant. Parce que nous sommes ces deux fils. Hein. On a tendance à caricaturer, et puis voilà, alors celui qui n'était pas croyant et qui devient croyant, c'est le fils prodigue qui revient, et puis le fils aîné, c'est le méchant chef religieux dans l'église à côté, parce que dans la nôtre, il n'y en a pas, bien sûr, hein. Mais dans l'église à côté, il y a plein de fils aînés qui travaillent pour Dieu, qui sont jamais contents, qui râlent, etc. La réalité, c'est que je suis ces deux fils très souvent. Hein. Il y a tous ces moments dans ma vie où, en fait, j'ai l'impression que j'apprécie ce que Dieu me donne, mais j'ai pas envie de le vivre avec lui. Vous savez, pour ceux qui ont des enfants, vous savez comment c'est. Quand ils sont petits, vous pouvez pas respirer. Ils sont toujours accrochés à vous. Ils veulent toujours que, hein, ils peuvent pas jouer au Lego. Non, il faut que vous alliez jouer au Lego avec eux. Ils peuvent pas aller promener. Il faut que vous alliez promener avec eux. Puis, en tant que parents, surtout si c'est les premiers, on se dit, vivement qu'ils grandissent, hein. Et puis, il y a cet âge-là où tout d'un coup, on va promener en forêt. Papa, je vais pas aller promener en forêt avec toi. Mais t'aimais ça. Ouais, avant, quand j'étais petit. Ouais, mais la semaine dernière, ben oui, j'étais petit. Hein. Et puis, voilà, et puis peut-être après, quand on sera très vieux et eux aussi, on va retourner marcher en forêt. Mais voilà, on passe de l'un à l'autre. Hein. Et on est comme ça avec Dieu. Mais en même temps, on le sait aussi, moi je suis passé par toutes ces étapes en tant qu'enfant et un peu en tant que parent aussi. Hein. Donc on est tout content, on quitte la maison des parents, là je me mets dans la peau de l'enfant. Hein. On part à l'université, ou on part étudier, etc. Puis, c'est super, on a quitté la maison, sauf que tout d'un coup, on regarde notre compte en banque et oups, c'est vide, le frigo aussi. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend le téléphone. Allô papa, tu pourrais me faire un petit virement s'il te plaît, hein? Ça, c'est le fils le plus jeune. Et nous sommes souvent, enfin, je suis souvent comme ça avec Dieu. C'est-à-dire que j'apprécie la paix que Dieu me donne, l'espérance de la vie éternelle, etc. Mais il y a ce moment dans ma vie où j'ai envie de prendre tout ce bon-là que Dieu peut me donner, mais pour aller faire ma vie sans lui. Parce qu'en fait, c'est ça le but de la vie, c'est que moi, je me réalise. Et ce que Dieu m'apporte, c'est un plus pour ça. Mais j'ai pas envie de le vivre dans la maison avec lui. J'ai pas encore compris. Hein. Et je suis ce fils-là. Et puis il y a les moments, parce qu'on est l'un et l'autre, comme je l'ai dit, où ben je me dis bon quand même il faut être un peu sérieux. Et puis quand même avec ce que Dieu a fait pour moi, j'ai un peu de culpabilité, même si je devrais pas en avoir. Et puis je décide de faire quelque chose pour Dieu. Alors je me lève le dimanche matin et je viens à l'église, même si on a dit que c'était pas obligé d'y aller. Et puis je vais faire ci et je vais faire ça là. Mais je le fais toujours pas comme il faut, hein. Avec cette idée, ouais, quand je pense que moi je me suis levé, puis regardez le nombre qu'on est ce matin, et les autres ils sont dans leur lit, hein. Et puis moi je ne peux même pas faire la fête parce qu'en plus il n'y a même pas de. Et puis voilà. Et on passe, j'ai l'impression, où je passe de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, et je réalise pas que, en fait, les biens que le Père me donne, ils ont de la valeur que si je les vis en tant que fils dans la maison, en famille. Et puis, dans la vie naturelle, il faut qu'on grandisse quand même pas mal avant de réaliser que ce qu'on avait de plus précieux dans notre maison, ben, c'était pas forcément le fait qu'il y ait de l'argent ou pas d'argent, mais il en faut quand même, mais c'était l'amour qu'on a reçu, les liens qu'il y avait, tout ce qui nous a été transmis. Et il faut un moment avant que on réalise la valeur de ce que ça avait, puis éventuellement qu'on, si on a la possibilité, qu'on le retrouve. Hein. Et c'est important, je pense, pour nous, parce que c'est ce qui va nous permettre de trouver notre place, toute notre place, et rien que notre place. Et Henri Nouwen, toujours, a une phrase qui m'a beaucoup touché. Sur la prière, mais aussi sur cette relation-là, et il dit ceci, toujours dans le même livre. De même, notre vie de prière, vécue comme une réponse fidèle à la présence de l'Esprit en nous, peut ouvrir une fenêtre sur nos émotions, nos sentiments, nos passions, et nous éclairer sur la façon de les mettre au service de notre longue progression dans le cœur de Dieu. Et j'ai aimé cette image-là. En fait, notre voyage spirituel, c'est une longue progression dans le cœur de Dieu. C'est pas faire des choses, c'est pas partir faire des choses avec ce qu'il nous a donné. C'est progresser dans ce qui est réellement notre maison, là où on peut vivre, où je peux tuer un veau gras, où je peux travailler, où je peux dormir, où je peux juste être qui je suis. Et cet endroit-là, c'est le cœur de Dieu. Et je vis ces choses-là en réponse à l'appel de l'Esprit de Dieu en moi qui crie « Papa !» vers notre Père Céleste. Et je trouve que c'est particulièrement important. Et on est dans une période, de nouveau, où voilà, on va encore moins pouvoir se voir qu'avant. On se voyait déjà pas beaucoup. Ça devient encore plus compliqué. Peut-être ça va durer quelques mois. On le souhaite pas, mais c'est une possibilité. Et vous verrez dans le petit livret qu'on va vous faire parvenir d'une façon ou d'une autre, on encourage à la prière. Et puis, comme je l'explique brièvement dans le petit paragraphe, le mot prière, pour chacun de nous, il veut dire quelque chose de différent. Hein. Il y a des gens pour qui c'est un mot qui fait peur, il y en a, c'est un mot qu'on aime bien. Mais surtout, on met pas la même réalité derrière, parce qu'en fait, c'est un mot qui recouvre énormément de réalités. différentes et on a tous à progresser dans les différents domaines. Mais cet aspect-là, considérer que notre vie de prière est une réponse fidèle à la présence de l'Esprit en nous. Hein. C'est pas la prière, c'est pas juste fermer les yeux, se mettre à genoux ou pas, et puis demander des choses à Dieu, dire des choses à Dieu, je te prie pour, et je te prie pour, et je te prie pour, et je te prie pour. C'est cette déjà prendre conscience que je suis enfant de Dieu. Quand je vis dans la conscience du fait que je suis enfant de Dieu, grâce à ce lien intérieur, à cet esprit de Dieu qui atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu, je suis dans la prière. Et à partir de là, il se passe plein de choses différentes. Peut-être je reste en silence, peut-être je demande des choses à Dieu, peut-être j'écoute ce qu'il me dit. Mais peu importe, tout ce qui est vécu dans la maison, avec le Père, en étant conscient que je suis son enfant, c'est ça la prière. Et ça prend des formes différentes. Et dans le chant que j'avais choisi au début, il est dit « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». Et ce chant, il paraphrase un verset justement de l'épître de Jean, hein, au chapitre suivant, au chapitre 4, lorsqu'il est dit « L'amour parfait bannit, expulse, chasse la crainte ». Et la crainte, c'est aussi une des choses qui nous empêche de prendre notre place, toute notre place, rien que notre place. Et donc, lorsque je vis ma vie au quotidien en tant qu'enfant de Dieu, dans cet esprit d'adoption, avec ce lien à l'esprit de Dieu, alors il n'y a plus de place pour la crainte, il n'y a plus de place pour la peur. Hein. C'est là qu'on peut vivre concrètement. J'ai ce verset depuis des mois et je m'en décolle pas. Seigneur, tu nous donnes la paix parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Et on est dans cet autre paradoxe. La vérité dans la Bible, c'est toujours des paradoxes, hein, parce qu'il y a une chose et son contraire qui sont côte à côte parfaitement. C'est Dieu qui fait et c'est nous qui faisons et c'est pas nous, c'est lui et c'est pas lui, c'est nous et c'est ensemble. Hein. Tu nous donnes la paix parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Et ça, c'est quand je vis de façon équilibrée dans la maison du Père, en étant ni ce fils rebelle qui se dit « Ah, si j'avais le fric du Père, mais sans lui, je serais heureux », et ni la mentalité de l'autre qui dit « Ouais, il faut travailler, ben j'ai pas le choix, c'est la maison, c'est la famille, mais pff, quand c'est qu'il sera plus là, que je puisse profiter ?» Et les deux sont faux, mais lorsque je suis enfant de Dieu, je suis chez moi. Je travaille pas pour le Père, je travaille pour nous, pour moi, pour ma maison, pour notre famille. Hein. J'ai pas envie de m'enfuir parce que le but c'est d'être avec lui. Hein. Et je serai pas heureux ailleurs. Et voilà. Alors je vous laisse avec ça. Et puis comme aussi c'est un petit peu dit dans le livret, je vous encourage à essayer de faire les liens entre les choses. Voilà, il y a un message tous les dimanches, par exemple, et puis il y a des questions des fois, ou il y a des réflexions qui en viennent, puis pas juste, ben on sort, ben c'était bien, paf, ou c'était pas bien, mais on le met à la poubelle, mais de se dire, pour moi, ça me dit quoi? Ça soulève quelles questions? Ça amène quelles réflexions? Peut-être le noter. Hein. Ce matin, je me préparais, je me rappelais du message il y a 2 semaines, puis je me suis dit, dimanche dernier, j'ai parlé de quoi? Incapable de m'en souvenir. Heureusement, j'avais des notes, j'ai dû aller les chercher dans mon ordinateur. Je me rappelais pas, hein. Et pourtant, c'est moi qui les préparais. Donc, c'est normal d'oublier. Mais justement, qu'est-ce qui m'a parlé? Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui m'interpelle? Qu'est-ce qui me dérange? Je note un petit peu, ou peut-être vous avez une bonne mémoire, c'est pas important. Et puis, j'y reviens de temps en temps. C'est pas le fait qu'on passe nos semaines à faire ça. Mais, c'est une autre façon d'être en lien parce qu'on réfléchit aux mêmes choses. Et puis quand on se croise, quand on se voit, quand on s'appelle, parce que si on peut pas se voir, on peut se téléphoner, on peut. Hein, tu dis, ouais, t'as retenu quoi, toi? Ben, tu sais, ouais, cette histoire de fils là, ouais, mais moi, et puis prendre ta place. Et pour toi, ça veut dire quelque chose ou non? Et on s'affûte les uns les autres. Et c'est encore une autre façon de rester unis dans ces moments compliqués, mais surtout c'est une façon de progresser dans le cœur de Dieu, parce que c'est là que nous sommes, c'est là qu'est notre maison. Et je vous propose de prier pour terminer. Notre Père, tu es aux cieux, mais tu es aussi en nous, par l'Esprit, dans nos cœurs. Et nous voulons te voir, te discerner, t'accueillir. Nous voulons comprendre et nous voulons te dire que nous avons envie de vivre dans ta maison, de vivre avec toi, mais pas comme esclave ni comme fils qui veut partir, dans la liberté, dans cette liberté qui est le résultat de l'amour, parce que nous sommes tes enfants bien-aimés et que tu nous aimes comme tu aimes le Christ et que nous avons hérité de cette relation-là, de tout l'héritage qui va avec. Et nous aurons nos vies et l'éternité pour découvrir ce que ça veut dire. Et que nous puissions, comme les petits moineaux dont a parlé Matthieu ce matin, en grappiller des miettes chaque jour, être attentif à ce qui tombe, et puis à nous en nourrir, à le chercher et à le garder, et puis que nous puissions nous encourager les uns les autres. Te demandons dans cette période que tu gardes chacun dans sa santé, dans sa situation matérielle aussi, avec tout ce qui est les conséquences qu'il y a, et puis que tu nous apprennes, tu nous encourages, tu nous fortifies dans cette vie avec toi, dans la maison qui est ton cœur pour nous. Amen.